Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Le temps des représailles est terminé. C'est maintenant le temps pour la réconciliation, la reconstruction et la formation de notre nation. Mettons une bonne fois pour toutes de côté nos différences et unissons-nous. Et je vous assure que nous y gagnerons grandement. Longue vie à notre liberté.
Si le Faucon d'hier parle de réconciliation, c'est parce que son combat a considérablement fait évoluer les forces et le climat dans son pays. Après une dizaine d'années passées en prison et une guerre acharnée contre le pouvoir raciste blanc de Rhodésie du Sud, dirigé par un certain Ian Smith, qui n'entendait pas faire participer la majorité noire à la gestion du pays, la lutte armée, la pression très variable et souvent hypocrite de la communauté internationale, ont eu raison de la résistance des plus radicaux. Si les sanctions n'ont pas fait plier la Rhodésie du Sud, elles l'ont considérablement affaiblie au bout de 15 ans. De plus, le harcèlement des mouvements de guérilla a fini par lasser une population blanche dont le solde migratoire est devenu négatif depuis 1975. À Lancaster House, à Londres, on négocie. On discute pour trouver une solution et retrouver la paix. Suite de notre série d'archives d'Afrique, spéciale Robert Mugabe.
Je pense honnêtement que les propositions actuelles sont une base. Une bonne base pour des négociations, selon moi, qui mèneront à un accord.
Denis Norman, qui va être l'un des ministres blancs de Robert Mugabe.
Mais il méprisait le parti travailliste. Et il trouvait que les travaillistes l'avaient vraiment laissé tomber. Et quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir avec Margaret Thatcher, au début, le dossier ne la passionnait pas, ce n'était pas une priorité. Mais lors d'une réunion du Commonwealth à Lusaka, des dirigeants l'ont convaincue de tenter une dernière initiative et d'organiser une autre convention sur la Constitution. Cette fois-ci, la réunion aurait lieu à Londres, à Lancaster House. Et Margaret Thatcher a chargé son ministre des Affaires étrangères, Lord Peter Carrington, de s'en occuper. Et la réunion a duré 3 mois.
À Lancaster House, en Grande-Bretagne, en ce mois d'octobre 1979, la situation est tendue. Les négociations piétinent. Les points de désaccord sont nombreux. Robert Gabriel Mugabe.
Il y a maintenant deux armées qui se font face et l'armée de Smith doit partir. La nouvelle armée, l'armée du Zimbabwe, doit être fondée sur les forces de libération. Une des armées doit partir. C'est la raison de ce conflit. Si cette guerre devait durer pendant encore 2, 3, 4 ou 5 ans, Smith et son armée devront quitter le pays. Si vous voulez que la guerre dure moins longtemps, l'armée de Smith devra quand même partir. Mais ça irait plus vite. Nous avons donc souligné que la nouvelle armée, l'armée du Zimbabwe indépendant, ne peut plus être l'armée de Smith. Elle ne peut qu'être l'armée fondée sur les bases des forces de libération. Néanmoins, cela n'exclut pas que le nouveau gouvernement puisse inclure dans cette armée, basée sur les forces de libération, des éléments ou personnes acceptables issus de l'armée de Smith. Ça avait été rejeté par Smith, qui insistait qu'il devait avoir des forces armées parce que, selon cette nouvelle proposition, la nouvelle armée du Zimbabwe doit être fondée sur les forces de libération qu'il appelait terroristes. S'il rejette ce fondement, cela mènera à un combat jusqu'au bout. Cette armée doit être prête à se battre jusqu'au bout. Jusqu'à ce que cette armée soit vaincue. Cela prendra du temps, beaucoup de temps pour vaincre l'armée de Smith. Mais elle sera vaincue. Lorsqu'elle sera vaincue, je ne suis pas sûr qu'il existera un futur pour les Blancs au Zimbabwe.
Au bout d'âpres négociations, le 21 décembre 1979, un accord est ratifié par la Chambre des communes sous le nom de Zimbabwe Act. Les accords de Lancaster House prévoient l'instauration d'un régime parlementaire, le maintien au Parlement pendant 7 ans de 20 sièges sur 100 réservés aux Blancs. et l'interdiction pendant 10 ans de procéder à une nationalisation forcée de la propriété privée. Cependant, une redistribution pacifique des terres avec indemnisation conséquente est encouragée, avec les garanties apportées par le Royaume-Uni. Les élections sont organisées et elles sont largement remportées par le parti de Robert Mugabe. Mars 1980. Robert Mugabe, un chrétien marxiste, est désigné pour le poste de Premier ministre par Lord Somes. Il constitue un gouvernement de Front National incluant deux Blancs, Denny Norman à la tête du ministère de l'Agriculture et David Smith à la direction du ministère de l'Industrie et du Commerce. Un accord avait été trouvé dans la nuit avec la minorité blanche, toujours dirigée par Ian Smith. Elle permettait le maintien de Blancs dans le gouvernement et l'administration, en contrepartie de quoi les préparatifs d'un coup d'État mené par l'armée et la police blanche sont annulés. Alex Smith, le propre fils de Ian Smith, est l'un des artisans de cet accord, Denny Norman, ministre de l'Agriculture.
Oh, on a beaucoup voyagé ensemble, aux quatre coins du pays, dans le Mashonaland, le Matabeleland, le Manicaland, pour rencontrer des agriculteurs, des transformateurs, des chercheurs, des scientifiques. Oh, il était très enthousiaste. Il posait beaucoup de questions, il comprenait très bien les réponses. Mugabe n'avait rien d'un idiot, il avait cumulé 7 diplômes universitaires. Il était très éduqué. Et pendant les premières années, il était très motivé. Il poursuivait 2 objectifs. Il voulait améliorer le sort des ruraux noirs, et donc il a décidé de réformer l'agriculture. Et son 2e objectif, c'était l'éducation. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais je pense qu'au cours des 5 premières années, il a fait bâtir 1 millier d'écoles secondaires.
Robert Mugabe est obligé de rassurer les milieux économiques blancs. Il adoucit son discours. Craignant une fuite massive des capitaux, le nouveau régime accepte d'introduire dans la Constitution un article protégeant la propriété privée, notamment foncière, ainsi qu'une clause interdisant toute modification de la loi fondamentale pour une période d'au moins 7 ans, ce qui a permis de rassurer les milieux économiques. La démarche d'apaisement ne s'arrête pas là.
Je souhaite profiter de cette occasion pour rassurer tout le monde à ce sujet. Toutes les retraites sont protégées par la Déclaration des droits et la Constitution signée à Lancaster House. Mon gouvernement s'engage pleinement à protéger non seulement le droit de chacun à recevoir et de garder sa retraite, j'en appelle ce soir à toutes les communautés et plus particulièrement aux individus et organisations, politiques ou autres, qui ont de l'influence, de convaincre leurs membres de faire preuve de tolérance et de patience en cette période cruciale de notre histoire. Que tous se fassent garants des principes de démocratie inscrits dans notre Constitution. Je serai le premier à dire ceci. Personne n'est sans faute, encore moins dans mon propre parti politique. Et je m'engage personnellement à ce que ce message soit porté haut et fort. Le Zimbabwe a un énorme potentiel de développement et nous pouvons tous en profiter. Ne le gaspillons pas avec des actions actives et mal pensées qui, à terme, ne profiteront à personne.
Hélène de Burbure, un fermier blanc.
Voilà bientôt 30 ans que je suis dans ce pays.
Et vous n'êtes pas né ici ?
Non, je suis né en Europe.
Et vous avez une plantation de combien d'hectares ?
Cette plantation a 2000 hectares environ.
Est-ce que vous êtes parmi ceux qui ont l'intention de partir ?
Non, pas du tout. J'espère rester le plus longtemps possible dans ce pays que j'aime beaucoup.
Vous avez décidé de rester ici, c'est parce que vous avez confiance en l'avenir du pays ?
Oui, j'ai confiance dans l'avenir de ce pays et je l'aime. Aussi, je me suis déjà posé la question. Au fond, je ne peux à peine abandonner certains de ces Noirs qui ont travaillé pour moi pendant maintenant plus de 20 ans et qui auraient peut-être faim si je devais partir.
Parce qu'ils ne pourraient pas se débrouiller sans vous ?
Ils dépendent entièrement de moi. Oui, ils sont illettrés, n'est-ce pas ? Alors, ils sont très important sur ma propriété ici, mais une fois qu'ils quittent cette propriété, ils ne sont plus rien.
Dans le sillage de ce vent d'apaisement, l'ancien premier ministre libéral Garfield Todd, emprisonné sous Smith, est nommé sénateur. Et Joshua Nkomo, le frère ennemi, entre au gouvernement. Le général Peter Walz, chef de l'armée nationale rhodésienne, est maintenu à son poste et pilote la fondation de l'armée nationale du Zimbabwe en intégrant les anciens guérilleros de la Zanla et de la Zipa. Si Robert Mugabe tient à rassurer les investisseurs et la communauté blanche qui tiennent l'économie, il reste fidèle à ses promesses, aux raisons qui ont guidé son combat.
The war has disorganized the communities and created a refugee population.
La guerre a désorganisé les communautés et a créé une population de réfugiés. Non seulement des réfugiés en dehors du pays, mais aussi une population à l'intérieur de nos frontières, qui peut clairement être considérée comme réfugiée. Ces gens doivent être replacés. Et cela nécessite, bien sûr, l'acquisition des terres du secteur européen pour pouvoir les placer.
En réalité, en accédant à la tête du gouvernement, le combattant nationaliste a pris une nouvelle dimension. Il faut séduire tout le monde. Il faut jouer la carte de l'unité. Une stratégie qui fonctionne. La loi martiale est levée le 21 mars 1980 et l'amnistie proclamée pour tous les crimes de sang commis avant le 1er mars 1980.
Je veux un État, nous dit Robert Mugabe, où un homme est un homme, où les êtres ont des droits sur la base de leur appartenance à une société où le racisme a été complètement éliminé, où les privilèges, non seulement de la race, mais tous ceux qui ne sont pas en conformité avec le principe de l'égalité, auront disparu. C'est ça la base, mais nos options sont socialistes et nous ferons en sorte que notre politique évolue, passe d'un stade à un autre, afin de réaliser nos idées. Par exemple, dans le domaine foncier, la terre appartient au peuple, même si son usage est individuel, encore que nous souhaitons la pratique aussi d'une agriculture collective. Nous voulons également que l'industrie offre une totale participation aux travailleurs, celui-ci n'étant pas qu'un salarié, mais aussi un responsable, un décideur. Une société qui prend soin d'abord de l'intérêt collectif et ensuite seulement de l'intérêt individuel, c'est ce que nous voulons établir.
Ce 18 avril 1980, l'ancienne Rhodésie du Sud accède une nouvelle fois à l'indépendance sous le nouveau nom, cette fois-ci, Zimbabwe. Une souveraineté célébrée fièrement dans le stade Rufaro, au cœur de Highfield, le township de la capitale Salisbury. Ce jour-là, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 avril 1980, Bob Marley and the Wailers agrémentent la soirée. Ils interprètent entre autres Zimbabwe, cet appel vibrant au panafricanisme. We gon' fight, we love to fight, we gon' fight, we gonna fight, fight it for our eyes. Not if my shit in a Zimbabwe, put the treaty code in a Zimbabwe, the cancer liberate Zimbabwe, I liberate Zimbabwe. No more internal. Moment historique. La dernière colonie européenne sur le continent s'apprête à rentrer dans le concert des États libres. Des personnalités et représentants de 100 pays, dont 11 chefs d'État, ont fait le déplacement. Un parterre d'invités de marque, dont le prince Charles du Royaume-Uni, Lord Holmes, le dernier gouverneur du pays, Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'ONU, Edem Kodjo, celui de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA, le président zambien Kenneth Kaunda ou la première ministre indienne Indira Gandhi. Le stade est comble. Plus de 35 000 personnes enthousiastes assistent à la cérémonie. Des milliers d'autres sont bloqués à l'extérieur, voire dispersés par des gaz lacrymogènes. L'enceinte ne pouvant accueillir tous ceux qui veulent à tout prix assister à la disparition de la dernière parcelle de l'Empire britannique sur le continent. À minuit, dans un silence absolu, l'Union Jack descend du grand mât installé au milieu du stade et laisse la place au drapeau quadricolore du jeune État. La Rhodésie du Sud devient le Zimbabwe. Pour de vrai cette fois-ci, car à deux reprises, l'indépendance proclamée n'avait pu obtenir une quelconque reconnaissance internationale.
Moi, Canaan Banana, jure de servir sincèrement le Zimbabwe en tant que président et avec l'aide de Dieu.
Robert Gabriel Mugabe, do swear
Moi, Robert Gabriel Mugabe, jure d'être fidèle et de prêter pleine allégeance au Zimbabwe et de respecter les lois du Zimbabwe avec l'aide de Dieu. Que Dieu accorde sagesse à ceux en position d'autorité et qu'ils obéissent à sa volonté.
Pour les 230 000 blancs du Zimbabwe, 90 années de domination se sont terminées hier. L'accession de la Rhodésie à l'indépendance légale a été célébrée avec enthousiasme par les 7 millions de noirs. La douche est d'autant plus froide pour ces 230 000 blancs que le vainqueur des récentes élections est le chef de la principale armée de guérilla, M. Mugabe. Mais le Zimbabwe est né dans un calme surprenant. M. Mugabe, qui est devenu Premier ministre, a multiplié les signes d'apaisement envers la communauté blanche, car il sait bien que sans les blancs, l'économie du pays s'effondrerait. Le Premier ministre noir, ancien chef de guérilla, a déclaré à la communauté blanche hier « Si hier vous me haïssiez, aujourd'hui vous ne pouvez éviter l'amour qui vous lie à moi et me lie à vous ». La Grande-Bretagne a donc réussi son pari, évincé Ian Smith qui avait décrété unilatéralement l'indépendance de la Rhodésie en 1965 et faire accéder la Rhodésie à l'indépendance légale. M. Christopher Soames, qui représentait le gouvernement britannique en Rhodésie et qui vient de rentrer à Londres, et le Premier ministre britannique, Mme Thatcher, s'en sont félicités. De Londres, Jean-Louis Burka.
Au milieu des difficultés dans lesquelles se débattent aujourd'hui Mme Thatcher, marché commun, grève, inflation qui atteint ce mois-ci 20%, un seul coin de ciel bleu, la Rhodésie. En l'espace de 4 mois, le gouvernement britannique a arrêté une guerre civile qui avait fait près de 30 000 victimes, et a conduit un pays africain à l'indépendance avec un gouvernement multiracial. Tout cela pratiquement dans le calme et en empêchant un exode que l'on croyait inévitable, celui des 230 000 Européens qui avaient soutenu depuis 15 ans comme un seul homme le régime illégal du Premier ministre Ian Smith. Le Zimbabwe, que Mme Thatcher s'obstine à appeler Rhodésie, ne sera pas notre Algérie, affirme-t-on à Londres. Et pour le moment, cela semble vrai. Lorsque Lord et Lady Soames sont partis pour la Rhodésie, nous ne nous faisions pas d'illusions sur la difficulté de leur mission. Il s'agissait de passer de la guerre à la paix, de la violence aux urnes, de la peur et de l'amertume, à l'espoir et à la réconciliation. Je dois féliciter tout spécialement les unités de l'armée parties avec moi et disséminées en petites équipes dans la forêt pour en faire sortir les guérilleros, les rassembler et les surveiller. J'ai eu en permanence l'impression qu'à tout moment, tout pouvait exploser. Mais chaque fois, un miracle a empêché l'irrémédiable. Lorsque je suis parti là-bas, je ne croyais pas au miracle, mais j'ai changé d'opinion depuis. Les Britanniques n'ont pas traîné. Quelques heures après les cérémonies d'indépendance, ils sont de retour à Londres et abandonnent le Zimbabwe à ses nouveaux dirigeants. Il s'agit maintenant de parler coopération et aide économique. Et surtout, avec l'aide des Américains, prendre de vitesse les Soviétiques qui sont aussi sur les rangs. C'est une nouvelle bataille qui s'engage tout aussi difficile que celle que vient de remporter Lord Soames. Jean-Louis Burga, TF1, Londres.
Le nouvel État est accueilli chaleureusement par la communauté internationale. Le nouveau président de la République du Zimbabwe est Kanan Banana, un modéré. Adieu le régime raciste de Ian Smith et la colonisation britannique qui auront fait plus de 25 000 morts en 90 ans d'oppression. Place à une nouvelle ère, celle du président Kanan Banana et surtout de son premier ministre, Robert Mugabe, l'ancien chef de la guérilla. Le Zimbabwe rejoint immédiatement les Nations Unies puis le Commonwealth. Mais le chantier dans un pays aussi divisé et aussi meurtri par des années de guerre est immense. Comment le nationaliste ombrageux qui prend les rênes de cet ensemble va-t-il concilier les composantes de ce pays? Comment compte-t-il rassurer les blancs qui tiennent l'économie? Pourra-t-il mettre en œuvre sa doctrine politique, son marxisme léniniste dont il se réclamait? Et avec le grand voisin sud-africain, quelle va être son attitude? La réforme foncière sera-t-elle vraiment engagée au regard des tensions qu'elle suscite déjà? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Robert Gabriel Mugabe, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Les Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Moi, Canaan Banana, jure de servir sincèrement le Zimbabwe en tant que président et avec l'aide de Dieu. Moi, Robert Gabriel Mugabe, jure d'être fidèle et de prêter pleine allégeance au Zimbabwe et de respecter les lois du Zimbabwe avec l'aide de Dieu. Que Dieu accorde sagesse à ceux en position d'autorité et qu'ils obéissent à sa volonté.
Après tant de décennies de lutte, la Rhodésie du Sud accède enfin ce 18 avril 1980 à la souveraineté internationale, avec un nouveau nom, Zimbabwe. Adieu le régime raciste de Ian Smith et la colonisation britannique, qui auront fait plus de 25 000 morts en 90 ans d'oppression. Place à une nouvelle ère, celle du président Canaan Banana et surtout de son premier ministre, Robert Mugabe, l'ancien chef de la guérilla. La ferveur qui accompagne cette indépendance est à la mesure des douleurs qui l'ont enfantée. Maintenant, il faut réconcilier ce peuple si longtemps opposé. L'injustice a longtemps exacerbé les antagonismes. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Robert Mugabe.
Robert Mugabe a de nombreux attributs que d'autres n'ont pas. Il est structuré. Il a énormément lu. Il est intelligent, brillant. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus.
C'est Rouhare Gumbo, un compagnon de lutte de Robert Mugabe, qui parle. Cet homme intelligent prend en main les destinées de la jeune nation indépendante. C'est le moment de la Realpolitik.
Le temps des représailles est terminé. C'est maintenant le temps pour la réconciliation, la reconstruction et la formation de notre nation. Mettons une bonne fois pour toutes de côté nos différences et unissons-nous. Et je vous assure que nous y gagnerons grandement. Longue vie à notre liberté.
The war has disorganized the communities and created a refugee population.
La guerre a désorganisé les communautés et a créé une population de réfugiés. Non seulement des réfugiés en dehors du pays, mais aussi une population à l'intérieur de nos frontières qui peut clairement être considérée comme réfugiée. Ces gens doivent être replacés. Et cela nécessite, bien sûr, l'acquisition des terres du secteur européen pour pouvoir les placer.
Pas question de faire fuir ceux qui tiennent l'économie, la minorité blanche. Le nouveau gouvernement de Robert Mugabe donne d'entrée de jeu une impression d'unité nationale. Deux blancs, par ailleurs anciens ministres dans le gouvernement de Ian Smith, sont nommés au poste sensible de l'agriculture et de l'industrie. Denis Norman était l'un des ministres blancs de son gouvernement.
Oh, on a beaucoup voyagé ensemble, aux quatre coins du pays, dans le Mashonaland, le Matabeleland, le Manicaland, pour rencontrer des agriculteurs, des transformateurs, des chercheurs, des scientifiques.
L'ancien premier ministre libéral Garfield Tolt, emprisonné sous Smith, est nommé sénateur et Joshua Nkomo, le frère ennemi, fait partie du gouvernement. Le général Peter Walz, le redoutable et violent chef de l'armée nationale rhodésienne, est maintenu à son poste et pilote la fondation de l'armée nationale du Zimbabwe en intégrant les anciens guerriers Ross de la Zanla et de la Zebra. Robert Mugabe.
Le programme que l'état-major mixte a mis au point récemment, destiné à accélérer le processus d'intégration, porte, je crois, sur l'incorporation d'environ 12 000 hommes d'ici le mois d'avril. Et encore 12 000 au cours des trois mois suivants. Donc d'ici avril, nous espérons intégrer quelque 12 000 hommes.
Robert Mugabe, en restant ferme sur la question de l'intégration des soldats de la ZIPRA, qui l'ont aidé à renverser par la lutte le régime raciste de Ian Smith, assouplit sa position sur la question de l'idéologie politique. Plus question de marxisme léniniste.
Our view is a very clear one.
Notre point de vue est très clair. Il est basé sur le principe suivant. Les ressources du pays appartiennent au peuple et doivent donc être exploitées dans un esprit communautaire, reconnaissant le rôle des travailleurs et des paysans dans le processus de développement. Elles doivent être exploitées non au profit d'individus, mais du peuple dans son ensemble. Nous savons en outre que l'instauration nécessaire du socialisme dans notre pays ne sera pas un processus à court terme. Elle prendra du temps, comme c'est le cas par exemple dans d'autres pays. Nous devons donc entre-temps nous accommoder de l'infrastructure capitaliste dont nous avons hérité.
Tu disais, Robert Nard, le ministre du plan du gouvernement de Robert Mugabe.
Voyez-vous, souvent les gens ne comprennent pas que le fait d'être nationaliste ne signifie pas forcément être vendu à des théories formulées à l'étranger. Il faut subordonner ces théories aux exigences de notre propre société et aux objectifs que nous nous efforçons de réaliser.
Mais beaucoup de pays africains n'ont pas fait cela.
Eh bien, je ne sais pas, ils peuvent s'exprimer eux-mêmes là-dessus, mais nous sommes décidés ici à veiller à ce que chaque personne qui s'estime zimbabwéenne, qu'elle soit noire ou blanche, ait la possibilité de travailler, puisse se déplacer librement et en fait soit fière d'être zimbabwéenne. Pour cela, nous ne pouvons pas, pour ainsi dire, trancher trop cavalièrement le nœud gordien. Il nous faut faire face aux réalités de notre situation avec autant de pragmatisme, mais également autant d'énergie que possible.
Denis Normand, son ministre de l'Agriculture.
Il était très enthousiaste. Il posait beaucoup de questions et il comprenait très bien les réponses. Mugabe n'avait rien d'un idiot. Il avait cumulé 7 diplômes universitaires. Il était très éduqué. Et pendant les premières années, il était très motivé. Il poursuivait 2 objectifs. Il voulait améliorer le sort des ruraux noirs, et donc il a décidé de réformer l'agriculture. Et son deuxième objectif, c'était l'éducation. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais je pense qu'au cours des 5 premières années, il a fait bâtir un millier d'écoles secondaires.
En effet, un accent est mis sur l'éducation et la santé, secteur dont les Noirs avaient été presque entièrement privés sous le régime de Ian Smith. En 1992, une étude de la Banque mondiale indique que plus de 500 centres de santé ont été construits depuis 1980. Le pourcentage d'enfants vaccinés est passé de 25% en 1980 à 67% en 1998 et l'espérance de vie de 55 à 59 ans. Le taux de scolarité a augmenté de 232% une année après que l'enseignement primaire ait été rendu gratuit et les effectifs de l'enseignement secondaire ont augmenté de 33% en 2 ans. Ces politiques sociales entraînent naturellement une augmentation du taux d'endettement. Plusieurs lois sont adoptées dans les années 1980 pour tenter de diminuer les écarts salariaux. Les écarts sont toutefois restés considérables. Dans cette période, Robert Mugabe est accueilli partout. Il est respecté de ses pairs, mais également de ses ennemis, ses adversaires anglais d'hier. Denis Normand, son ministre de l'Agriculture de la première année.
Je l'ai accompagné lors de son premier déplacement à Londres et il a été assez remarquable lors de ce voyage. Il soutenait avec ferveur la monarchie et l'aristocratie britannique en général. Durant les premières années de son règne, ils sont tous venus nous rendre visite. Nous avons eu la reine et le duc, le prince Charles est venu 2, peut-être 3 fois, la princesse Anne, le duc de York, le prince Edward. Tous ont été bien reçus par Mugabe. Il a donné des banquets en leur honneur. La relation amour-haine avec les Anglais n'avait rien à voir avec la famille royale. Mugabe était un grand admirateur du Parti conservateur en Angleterre.
L'an 1 de l'indépendance est célébré comme un véritable succès, même si l'ancien Premier ministre Ian Smith, qui est désormais dans l'opposition, ne veut pas reconnaître les progrès réalisés.
Il ne fait pas de doute que dans certaines régions du pays, la sécurité est meilleure qu'avant. Mais ailleurs, malheureusement, on vous dira que la situation est encore pire que pendant la guerre. Il est donc difficile de généraliser. Il y a des zones où les gens ne peuvent pas se déplacer en sécurité. Ainsi, des fermiers blancs innocents ont été tués. Or, dans d'autres régions, c'est le noir qui est la victime. Il semble qu'il existe des tensions entre certaines factions noires et il y a eu pas mal de morts. Et cela continue.
Si Robert Mugabe déploie un trésor d'énergie pour rassurer ses compatriotes blancs et pour entretenir de bonnes relations avec Londres, dans le même temps, en septembre 1980, il rompt ses relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, tout en maintenant des relations économiques et commerciales assez étroites. Il faut dire que le grand voisin joue un rôle perturbateur. Le régime d'apartheid lançant de temps en temps des raids contre les bases de l'ANC sur le territoire zimbabwéen face aux troupes impuissantes. Pour bien marquer sa rupture avec le colonialisme, le gouvernement fait rebaptiser ou réorthographier toutes les villes du pays lors du deuxième anniversaire de l'indépendance en avril 1982, à l'instar de Salisbury, désormais appelé Harare. En réalité, dans ces premières années qui vont suivre l'indépendance du Zimbabwe, Robert Mugabe séduit la communauté internationale par son engagement. Seulement, il est confronté à une réelle difficulté. L'agriculture dont il hérite est certes performante, mais la structure est scandaleusement inégalitaire. 6000 fermiers blancs possèdent 50% des terres cultivables du pays, et les trois quarts des plus fertiles, ce qui permettait au pays de garder son autosuffisance alimentaire et d'être contributeur au programme alimentaire mondial. Les accords de Lancaster House lui interdisent de modifier cette situation pendant 10 ans. Un arrangement dont le but était de préserver une agriculture commerciale performante en évitant un exode massif de la population blanche, détentrice des capitaux et des qualifications qui faisait alors cruellement défaut au sein de la population africaine du fait de la ségrégation raciale en vigueur sous le régime blanc. En échange, la Grande-Bretagne s'engage à financer l'installation des anciens guerriers russes et des populations déplacées sur des terres vacantes laissées en jachère par des propriétaires absentéistes. Une concession de taille, puisqu'elle revient pour les Africains à racheter ce qui leur avait été confisqué par les colons. Il y avait 200 000 fermiers noirs qui réclamaient des terres à cultiver et dont les revendications n'allaient cesser de mettre le gouvernement sous pression. Ainsi, dès la première année de l'indépendance, des manifestations anti-blancs réclamant la redistribution des terres dégénèrent. En septembre 1980, les deux statues de Cecil Rhodes, érigées devant le Parlement de Salisbury et dans le centre de Bulawayo, sont déboulonnées par une foule en furie, exigeant une redistribution immédiate des terres et l'expulsion de tous les blancs. La rivalité entre la ZANU et la ZAPU, moins de 2 ans après l'indépendance, va déboucher sur une dégradation générale et un conflit armé sanglant dans le pays. Dès 1981, Joshua Nkomo est évincé du gouvernement et plusieurs de ses partisans arrêtés. Le conflit politique se calque sur un conflit ethnique. Mugabe, Shona, comme ses 62,9% des électeurs, et Joshua Nkomo, Debele, comme l'essentiel de ses partisans. Joshua Nkomo.
We have people beating up people.
Il y a des gens qui tabassent d'autres gens. Pourquoi faut-il que les gens se battent les uns contre les autres? Pourquoi faut-il qu'ils tabassent? Pourquoi devez-vous apprendre aux gens à se haïr? Ce n'est pas le moment pour la haine. C'est le moment d'enseigner aux gens à se respecter et à s'accepter. Pas à se haïr, pas à se faire du tort, et pas à se tuer. Tout ça parce que nous ne comprenons pas. Personne ne doit se promener avec des grenades et des AK à essayer de persuader des gens comme ça. Si vous vous promenez avec des AK pour convaincre les gens, c'est parce que vous n'avez aucun soutien. Si vous aviez du soutien, vous ne feriez pas des choses
comme ça. Après la découverte de caches d'armes clandestines de la ZAPU, des activités de guérilla reprennent dans le Matabeleland. Joshua Nkomo est accusé de trahison. Il est blessé, profondément blessé par cette accusation.
J'ai souffert. J'ai travaillé avec acharnement pour ce pays. Avant l'indépendance, pendant la guerre, j'ai travaillé si dur après l'indépendance pour faire en sorte que notre indépendance tienne. Et cet homme, aujourd'hui, se tourne vers moi et m'appelle traître. Moi, un traître, un homme qui a tellement travaillé pour ce pays, il n'y a pas plus insultant que ça.
Justina Mukoko du Zimbabwe Peace Progress.
Le PF ZAPU de Nkomo était perçu comme malhonnête, car le groupe de Mugabe avait découvert des caches d'armes dans des fermes qui appartenaient aux ZAPU de Nkomo.
Joshua Nkomo,
de son côté, nie conserver des armes en vue de mener un combat. et des membres de la ZIPRA, l'armée du PF Zapou de Joshua Nkomo, étaient aussi accusés d'avoir mené des exactions contre des civils pour se venger, car le groupe de Joshua Nkomo n'avait pas eu les postes qu'il convoitait au sein du nouveau gouvernement. Tous ces épisodes ont mené à ce que l'on appelle le Gukurahundi.
Gukurahundi, c'est le nom de l'opération qui signifie littéralement la pluie qui disperse la paille avant celle du printemps. C'est le premier massacre du régime de Robert Mugabe. Janvier 1983, Robert Mugabe envoie la 5e brigade formée par la Corée du Nord pour, dit-il, rétablir l'ordre au Matabeleland. Bastonnades, exécutions sommaires, récoltes et villages brûlés. Des milliers de civils sont massacrés et des villages rasés. On compte, selon les sources, jusqu'à 20 000 victimes civiles, presque tous des Dembélé. Aux familles qui pleurent leur mort, Robert Mugabe dit, je cite, « Ne pleurez pas si vos proches sont tués. Quand des hommes et des femmes nourrissent des dissidents, nous les débusquons et nous les massacrons. » Fin de citation. Joshua Nkomo.
C'est impossible pour M. Mugabe ou quiconque autre de décapiter un parti politique comme Zapu ainsi, en utilisant la violence. Si quelqu'un souhaitait avoir un seul parti, je ne pense pas que la violence serait la meilleure méthode pour le faire, parce que vous perdriez le cœur des gens. Si vous voulez cela, si Mugabe voulait cela, la meilleure chose à faire était de s'organiser, de gagner le cœur des gens et leur montrer ce qu'il peut faire pour eux et non pas de leur tirer dessus pour les faire rentrer dans le rang.
Devant la violence qui s'intensifie et la menace claire qui pèse désormais sur lui, Joshua Nkomo, l'ancien ministre et ancien camarade de lutte, s'enfuit en Angleterre.
Je ne pense pas qu'il était nécessaire d'y réfléchir. Il y avait la question des menaces de mort. Je devais partir. Je dois être ailleurs, quelque part d'où je pourrais aider à régler le problème. Selon vous, il ne fait aucun doute que votre vie est en danger. Je ne pense pas que quiconque avait été. Trois personnes avaient été tuées chez moi. C'était donc tout à fait évident que c'est ce qui se serait passé si j'étais. D'où pensez-vous que ces menaces de mort provenaient? Elles provenaient de la 5e brigade. Lorsqu'ils ont fait intrusion chez moi, ils ont tout saccagé et tué trois personnes dans la maison. Que pensez-vous de la 5e brigade? Il me semble que j'avais déjà exprimé mon avis lorsqu'elle avait été constituée. J'avais dit au Premier ministre que c'était regrettable qu'une brigade soit créée en dehors de l'armée nationale et que je craignais qu'elle soit employée comme armée politique, détachée de l'armée nationale. Et il semblerait que tel ait été le cas. Certains suggèrent qu'il s'agit d'une armée tribale. Eh bien, cela pourrait être une armée tribale, mais pas une armée de la tribu Shona, comme certains le disent. Ils pensent que parce que la 5e brigade est constituée de jeunes qui parlent Shona, les actions de la brigade sont des actions de la tribune Shona contre les Dembélé. Je pense que c'est faux, que c'est une mauvaise interprétation des faits.
Comment réconcilier les deux frères ennemis qui risquent de donner raison à ceux qui quelques années plus tôt estimaient que les Africains noirs ne sauraient pas gérer le pays? Comment Mugabe réussira-t-il à éviter que la jeune République ne sombre à nouveau dans le chaos après ce massacre? Quelle va être la réaction de la communauté internationale après cette tuerie à grande échelle? Est-ce un tournant dans le règne du Premier ministre Robert Mugabe? On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Robert Gabriel Mugabe. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous avez également l'opportunité de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'Archives d'Afrique spéciale Robert Mugabe. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Musique du monde.